Cédric Bauduin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre dans Touche et Terre. C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des micro-mammifères. Avec ce terme de micro, on se doute bien que ces animaux sont petits. Mais Cédric, à quel point le sont-ils ?
Alors oui, en effet. Du coup, on va parler plutôt des petits mammifères, voire des très petits mammifères. Et en fait, ce terme-là regroupe une petite vingtaine d'espèces qui sont présentes en Eure-et-Loir, qui vont en fait de la plus petite, donc qui font quelques centimètres, qu'on appelle le rat des moissons. Le rat des moissons fait de l'ordre de 3 à 4 centimètres sans la longueur de la queue, hein, juste la longueur de la tête et du corps, jusqu'à le rat surmulot, hein, que l'on connaît bien, qui peut atteindre déjà une bonne dizaine de centimètres, voire une bonne quinzaine de centimètres.
Ce terme, il regroupe en fait plusieurs espèces. Quel est leur point commun ?
Alors oui, il va regrouper plusieurs espèces qui vont être plus couramment les musaraignes, les campagnols, les mulots, les souris, les rats. Et en fait, leur point commun, c'est que déjà leur petite taille, hein, on en a parlé, mais c'est aussi le fait qu'ils ont des mœurs plutôt nocturnes, donc ils vont être plutôt difficiles à observer, donc ils vont vivre plutôt la nuit. Et voilà, après ils vont vivre dans différents types de milieux urbains, de milieux plutôt généralistes, donc tout type de milieux pour certaines espèces, et des espèces qui vont être beaucoup plus spécialistes de certains types d'habitats, comme les forêts par exemple.
Et quelle place occupent-ils dans leurs écosystèmes respectifs ?
Ils occupent une place comme toutes les espèces en fait, hein. Donc ils ont un rôle à jouer. D'une part, donc voilà, comme je disais, il y a certaines espèces qui vont qui vont être plutôt généralistes, donc qui vont occuper vraiment tout type de milieu, donc le milieu bâti, des milieux de champs cultivés, des milieux de jardins, des parcs urbains, etc., jusqu'à des espèces vraiment plus spécialistes du milieu. Des milieux forestiers et bocagers. Après, donc, ils vont se nourrir de toutes sortes d'insectes pour les insectivores, hein, pour plutôt les musaraignes qui sont plutôt carnivores, donc d'insectes, d'arthropodes, de vers de terre, et plutôt des espèces qui vont se nourrir plutôt de graines, comme les campagnols, par exemple.
Les mammifères sauvages, on sait qu'ils sont très discrets, on s'estime chanceux quand on croise leur chemin. Alors, comment est-ce qu'on observe ces micro-mammifères ? C'est plutôt de façon indirecte ?
C'est toute la difficulté en fait de ce groupe faunistique. D'une part, donc pour des personnes lambda, elles sont énormément difficiles à observer parce que voilà, comme je le disais, elles ont plutôt des mœurs nocturnes, même si elles sont proches de l'homme. Dans certains types de cas, il va être quand même très difficile. Elles sont quand même très discrètes et très craintives malgré tout. Et du coup, le seul moyen, en fait, de les voir le plus facilement, c'est malheureusement lorsqu'ils vont être piégés. Lorsqu'ils sont un peu néfastes aux habitations, par exemple, ou aux activités humaines. Donc, lorsqu'on les piège, mais aussi lorsqu'ils sont prédatés, par exemple, par le chat domestique. Les chats ont tendance à ramener leur proie à leur maître ou à leur maîtresse, forcément là on arrive à observer le micro-mammifère, mais généralement c'est toujours dans le même cas, c'est dans des cas de mortalité. Et même nous, pour les naturalistes ou les spécialistes qui étudient les espèces de micro-mammifères, même là c'est vraiment très difficile de les observer, et on passe aussi également par de la capture, mais de la capture sans mort. Donc la capture non létale. Donc là, on utilise des pièges spécifiques qui vont nous permettre de capturer les individus, des pièges qu'on relève la nuit, hein, durant la nuit, 3 à 4 fois, pour éviter justement que l'individu soit piégé trop longtemps, puisque des petits animaux comme ça qui sont piégés longtemps vont stresser très rapidement, et des petits animaux vont justement ne pas résister à ce stress-là, et donc ils vont mourir assez rapidement. C'est pour ça qu'on fait des relevés très réguliers durant la nuit.
Très bien. Alors, est-ce que ces relevés permettent de se faire une idée de la santé des populations de ces micro-mammifères ?
Alors oui, ça va permettre de relever la santé de la population. Alors, il faut faire attention avec le terme de santé, sachant qu'on va pouvoir savoir si les espèces sont présentes ou absentes dans certains types d'habitats. Ou en fonction de leur répartition. On va pouvoir étudier leur répartition. Par contre, on ne va pas pouvoir étudier forcément l'abondance de ces espèces, où on va pas pouvoir calculer une estimation de taille de population, par exemple. Donc là, on va vraiment parler de présence-absence. Et si, et au fur et à mesure du temps, si on utilise les mêmes protocoles d'études, et s'il y a des espèces qui disparaissent, bah là, on pourra dire vraiment que l'espèce elle a disparu de cet habitat-là, ou de ce territoire-là. Et dans ces cas-là, on pourra estimer que, en fait, l'état de population, elle est négative pour cette espèce, par exemple.
Alors, comme il y a beaucoup d'espèces différentes, peut-être que elles se portent plus ou moins bien en fonction des problématiques qui s'offrent à elles.
Bah oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu comme dans le même cas des oiseaux. En fait, toutes les espèces qui vont être plutôt généralistes, donc qui vont utiliser tout un panel d'habitats, bah, toutes ces espèces-là vont se porter plutôt bien. Ou des espèces qui vont plutôt avoir tendance, en fait, à vivre dans des milieux cultivés, bah, c'est des espèces qui vont bien se porter, puisque du coup, c'est des habitats qui vont être bien représentés dans dans la mosaïque paysagère. Malgré tout, malheureusement, on sait toute la problématique qu'il y a avec les milieux cultivés, avec la disparition des haies, avec un peu une sorte de stérilisation de l'habitat. Et dans ces cas-là, bah, ces espèces-là vont quand même s'en sortir. Par contre, bah, toutes les espèces qui vont être un peu spécialistes de certains types d'habitats, bah, ils vont être du coup dépendants de la présence de cet habitat-là. Et donc toutes les espèces de milieux bocagers, par exemple, vont, elles, avoir tendance plutôt à disparaître, liées forcément bah, du coup à la disparition du bocage. Idem pour les espèces plutôt aquatiques, où bah, elles vont être vraiment dépendantes de la qualité des eaux. Et bah, voilà, en fonction des territoires et des usages qu'on pourra avoir de l'eau, et bah, du coup, ces espèces-là vont être plus ou moins présentes.
Et donc, c'est pas parce que parfois il y a des phénomènes de pullulation, ça veut pas dire que tous les micro-mammifères pullulent. Ils sont pas égaux à ce niveau-là.
Non, pas du tout. En fait, du coup, ces pullulations sont liées vraiment à certains types d'espèces. Par exemple, ça répond souvent à des cycles tous les 4 ans, où voilà, tous les 4 ans, on a une pullulation de campagnols, par exemple. Généralement, on parle de pullulation de campagnols parce qu'on parle du campagnol des champs qui va vivre dans les milieux cultivés. Et en fait, ce campagnol-là, bah, du coup, va avoir tendance à faire du dégât dans les cultures. Donc, bah, forcément, comme c'est lié à l'activité humaine, bah, on parle de ces pullulations de ces micro-mammifères-là. On parle de pullulation de campagnols, mais en fait, ça concerne vraiment pratiquement une espèce, qui est le campagnol des champs, qui vit vraiment dans ces habitats-là. Et souvent, c'est lié de toute façon à une augmentation du nombre de prédateurs. Donc, par exemple, les busards, les buses ou les faucons cresserelles, lorsqu'on étudie ces espèces-là et qu'on voit qu'il y a plus de couples certaines années à certains endroits, bon, on sait qu'à cet endroit-là, du coup, on serait plutôt sur une année favorable aux micro-mammifères, donc favorable aux campagnols. Donc, ce qui augmente, du coup, la taille des nichés et le nombre de couples des prédateurs potentiels.
Oui, on a vu dans cette émission, d'ailleurs, que la chouette effraie, par exemple, va refaire une nichée en fonction des populations de campagnols.
Oui, voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est toujours le système, la relation, en fait, entre proie et prédateur. Si les prédateurs arrivent à savoir qu'en fait il y a une quantité de proie qui est suffisante pour élever des jeunes, et ben déjà ils vont augmenter la taille des nichés, donc ils vont faire plus de jeunes, il y aura plus de jeunes qui survivront également, et en plus si la pullulation a lieu dans le temps, ça peut arriver qu'il y ait une telle pullulation qu'en fait même il y a énormément d'individus en hiver, ben, ça arrive très bien que certaines chouettes nichent pendant l'hiver, alors que normalement ça niche plutôt au printemps.
Alors, vous le disiez, certains de ces micro-mammifères parfois s'infiltrent dans nos habitats. On ne les voit pas, mais on les entend. Comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes de coexistence, de cohabitation? Et je précise que ce sera d'ailleurs le thème du 41e colloque francophone de Mammalogie qui aura lieu à Lons-le-Saunier les 23 et 24 octobre prochains, cette question de la cohabitation. Finalement, ça pose problème souvent parce qu'on n'est pas assez informé.
Oui, c'est généralement ça. Alors, c'est vrai qu'au colloque francophone, on va plutôt parler, voilà, des grandes espèces pour lesquelles il y a des grosses problématiques comme le loup, le lynx, l'ours, qui font énormément parler, qui font énormément débat. Mais en fait, les micro-mammifères, c'est un peu la même chose. Sauf, là, on va pas forcément parler parce que ce sont pas des espèces protégées. Donc, du coup, on peut mettre en place tout type de campagne d'éradication, en fait, pour ces espèces-là, sans qu'on ait un souci avec la loi, tout simplement. Donc la problématique, elle est vraiment importante parce que du coup, certaines espèces sont proches des habitations, donc il y a un conflit avec les habitants, notamment, voilà, bah, on connaît très bien le conflit qu'il peut y avoir avec le rat d'égout, Rattus norvegicus, qui est en fait une espèce qui a été importée en Europe, et maintenant qui est présente vraiment partout, et qui fait même concurrence à notre rat des champs, qui est indigène, qui est le rat noir, normalement. Et du coup, bah voilà, là, on parle là de problématiques plutôt liées à des maladies qui peuvent être transportées par la présence de ces rats-là, justement, dans leurs urines, etc. Il y a d'autres problématiques liées aux isolations d'habitat, à la présence des souris dans les maisons. Ça a toujours été, qu'on soit à la campagne ou en ville, on a toujours, il y a souvent des souris dans les maisons, en tout cas. Bon, bah voilà, c'est normal, elles utilisent ce type d'habitat-là, puis c'est normal parce qu'il y a une profusion aussi de nourriture à ces endroits-là qui fait que ça attire les espèces. Et après, bah, la problématique avec les agriculteurs, bah, ça c'est une vraie problématique également, hein. Le problème, c'est que toutes les campagnes qui sont utilisées pour, on va dire, éradiquer ou en tout cas faire diminuer ces populations qui sont nuisibles, qui sont néfastes en fait aux activités humaines, elles vont toucher d'autres populations. En fait, on a jamais d'outils qui vont vraiment cibler uniquement une espèce. Et donc, lorsqu'on utilise, par exemple, des systèmes d'empoisonnement ou du piégeage, on peut capturer ou empoisonner tout un type d'espèces, enfin, tout plein d'espèces, déjà de micro-mammifères, mais aussi tout plein d'espèces qui sont à côté et qu'on ne veut pas forcément se débarrasser. Voilà, là, c'est toute la problématique. En fait, le mieux, ça serait de piéger sans faire mourir l'animal. Et puis, en fonction de l'espèce, etc., bah, on la relâche. Et puis, comme ça, elle peut vivre sa vie tranquillement, mais ailleurs de l'endroit où elle était, qui est plutôt néfaste à ce moment-là.
Et garantir qu'elle ait suffisamment de prédateurs naturels ?
Le mieux, c'est de favoriser les prédateurs. Ça, on est d'accord. Après, bah voilà, certains prédateurs de micro-mammifères, tels que le renard, là, ils font également débat pour d'autres raisons. Et donc, du coup, bah voilà, les renards sont chassés partout en France toute l'année, pratiquement dans certains départements, alors que on sait qu'ils chassent énormément de micro-mammifères, et notamment lors des pullulations. Bah voilà, toutes ces espèces-là, comme les renards, comme les buses et les busards, qui sont pas forcément appréciés non plus, parce que du coup, c'est vrai que parfois elles s'attaquent aussi aux perdrix, donc aux espèces gibiers. Et donc, bah voilà, c'est pas toujours apprécié des personnes, et donc on s'en débarrasse également. Alors qu'en fait, ce sont des vraies luttes naturelles contre les ravages de micro-mammifères.
Oui. Alors, vous précisiez tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de ces micro-mammifères qui ne sont pas protégés. Est-ce qu'il y a tout de même des espèces qui sont préservées ?
La majorité des espèces ne sont pas protégées. La seule espèce de micro-mammifère qui est protégée, c'est le campagnol amphibie. Elle est protégée, donc elle a été protégée récemment, au début des années 90. C'est une espèce inféodée au milieu aquatique, mais qui a tendance à aller sur le milieu terrestre quand même. Et en fait, toutes les campagnes d'empoisonnement lié à son proche cousin qui est le rat-copier, donc qui fait énormément de dégâts dans les vergers par exemple et dans les cultures, dans certains départements notamment, et du coup voilà, tous ces phénomènes là de piégeage liés, ne connaissant pas forcément la différence entre ces espèces là, le campagnol amphibie a énormément pâti de ce piégeage intensif, et donc du coup il a failli disparaître, alors que c'est une espèce aquatique déjà, et donc c'est un super indicateur de la qualité du milieu aquatique. Et donc si le campagnol amphibie est présent, c'est clair que déjà on a une qualité d'habitat aquatique qui est relativement bien préservée en tout cas.
Alors on a fait un état des lieux un peu sur le plan général, le plan national. Intéressons-nous maintenant à notre département, l'Eure-et-Loire. Est-ce qu'on sait quelque chose des populations de micro-mammifères chez nous ?
Alors, justement, en fait, c'est pour ça qu'aussi on lance un peu une dynamique sur ce groupe. Enfin, on essaie d'étudier ce groupe d'espèces-là. C'est parce qu'on en sait pas grand-chose finalement. Il y a très peu de naturalistes déjà qui s'intéressent à ces espèces-là. Comme je disais, mœurs nocturnes implique forcément des systèmes d'études qui sont un peu plus compliqués, plus difficiles à mettre en place. Et puis, faut parcourir ça la nuit, donc c'est pas forcément évident. Donc du coup, en termes d'état de population, on connaît à peu près le nombre d'espèces qu'on a en Eure-et-Loire, mais par contre, en termes de répartition, il y a certaines espèces pour lesquelles on a plutôt une bonne connaissance, puisque c'est des espèces largement réparties. Par contre, pour certaines autres espèces, c'est là où on a plutôt des lacunes et qu'il faudrait mettre en place des projets d'études sur certaines espèces, hein, notamment des milieux bocagers, des milieux forestiers, où on a très peu de données en tout cas. Donc cas pas assez de données qui vont nous permettre de faire un état des lieux concret de ces espèces-là en Eure-et-Loire.
Donc les perspectives pour Eure-et-Loire Nature, c'est peut-être former des naturalistes ?
Il y a beaucoup de perspectives sur ce groupe-là, donc c'est déjà de former des naturalistes à la reconnaissance de ces espèces-là. Essayer aussi de rassembler des naturalistes qui seraient motivés aussi à étudier ce groupe d'espèces-là et à mettre en place des protocoles d'études nocturnes de piégeage, par exemple. Mais donc forcément un piégeage non létal, hein, je le rappelle, avec relâché sur place. Mais il y a aussi plusieurs projets là qui ont vu le jour récemment et qui sont vraiment très intéressants. Donc un projet notamment qui est lié à la recherche de pelotes de réjection donc des chouettes effraies notamment, hein, parce que la chouette effraie s'attaque à vraiment tout le cortège de micro-mammifères. Et en fait, voilà, il y a 30 ans, une association qui est pas loin, hein, qui est Perche Nature, a réalisé une étude de contenu de pelotes de réjection dans le Perche. Et là, en fait, 30 ans plus tard, nous, on voudrait faire exactement la même étude pour pouvoir justement comparer la dynamique de ces micro-mammifères en lien avec les crânes et les mâchoires qu'on va pouvoir retrouver dans les pelotes de réjection. Ce qui va pouvoir nous dire en fait si certaines espèces sont plutôt disparues, sont plutôt plus abondantes, etc. Donc ça, c'est déjà un premier projet d'étude qui va demander quand même un certain temps. Un deuxième projet d'étude qui est plutôt là pour les espèces de milieux forestiers, et notamment les diriges qu'on a déjà parlé, donc qui sont le muscardin et le loir gris. En fait, voilà, on a très peu de données sur ces espèces-là, voire quasiment pas du tout de données pour le loir gris, par exemple, alors qu'il devrait être présent. Et du coup, donc il y a une convention qui a été signée entre l'ONF et Eure-et-Loire Nature pour qu'on puisse aller poser des gîtes à Muscardin et des gîtes à Loire en forêt domaniale et notamment à Senonches pour le moment. Et en fait, ça consiste tout simplement à poser des nichoirs, hein, comme pour les mésanges par exemple. La particularité de ces nichoirs-là, c'est que du coup, le trou d'entrée va être posé contre le tronc, ce qui va permettre justement d'éviter que les oiseaux occupent tous les nichoirs. Et justement, eux, comme ce sont des micro-mammifères qui sont arboricoles, hein, donc pour eux, c'est très facile de monter aux arbres, de se déplacer de branche en branche. Et du coup, ils vont pouvoir aller faire leur nid d'hibernation dans ces nichoirs-là. Et ces nichoirs-là, nous, on va les relever pendant l'hiver, justement, pendant qu'ils dorment, pour savoir s'ils sont occupés et si, du coup, bah, l'espèce est présente ou pas, déjà dans un premier temps, donc à Senonches, comme je le disais. Et enfin, dernier projet, qui est un projet vraiment intéressant, on parlait du rat des moissons tout à l'heure, donc c'est la plus petite espèce de micro-mammifères que l'on peut rencontrer. Enfin, l'une des plus petites, puisqu'il y a aussi la musaraigne pygmée. Mais du coup, le rat des moissons, en fait, c'est une espèce qui est largement en déclin, donc on cherchait justement une espèce en déclin. Et bien celle-ci, alors le déclin est difficile à mesurer, mais c'est un rat qu'on voyait souvent lors des moissons pullulés, justement, enfin, on les voyait plus lors des moissons, puisque du coup, il récoltait tous les grains de blé, tous les grains de céréales qui étaient au sol. Et la particularité de cette espèce-là, c'est qu'ils font des nids également, mais il y a des nids pour mettre bas et il y a des nids pour hiberner. Et en fait, donc, il y a un bénévole qui s'appelle Romain Cassagne et qui veut mettre en place un programme de réintroduction de l'espèce en Eure-et-Loire. Donc, pour ça, il s'est rapproché notamment de l'OFB, hein, donc des agents d'État, mais aussi de plusieurs partenaires anglais et français pour justement avoir une souche qui serait viable à réintroduire. Donc là, du coup, il a fait un élevage, il a plusieurs individus. Et donc l'objectif pour lui serait de recréer des habitats favorables aux rats des moissons pour pouvoir y relâcher des rats des moissons pour augmenter un peu la population et pour essayer de retrouver l'espèce un peu partout, parce qu'en fait c'est une espèce qui normalement est largement répartie, mais au vu des premières recherches que l'on fait, bah en fait on a énormément de mal à la trouver, ce qui fait qu'elle est devenue de plus en plus rare, voire elle a certainement disparu de certains types de territoires.
Très bien, on s'intéressera à cette initiative de très près. Alors, ce qui est bien avec Eure-et-Loire Nature, c'est que vous n'hésitez pas à impliquer les citoyens que nous sommes. Comment est-ce que nous, on peut aider ces populations de micro-mammifères ?
Bah, pour nous aider déjà et pour aider les populations, en fait, n'importe quelle personne peut intégrer des données, peut envoyer des données par mail à Eure-et-Loire Nature, mais aussi peut intégrer des données dans la base de données OPS 28. Alors que ce soit des individus morts ou vivants, mais pour la particularité des animaux, en tout cas des micro-mammifères retrouvés morts et notamment ramenés par les chats, ils peuvent également participer à une étude de sciences participatives menée par la SFEPM, une association nationale, et en lien avec du coup le muséum, qui va justement recenser un peu toutes ces prédations, enfin toutes ces proies récoltées par les animaux domestiques pour essayer d'en estimer du coup le nombre, en fait le nombre, pour essayer d'estimer le nombre de proies comme ça qui sont récoltées par les chats domestiques. Alors loin de là d'essayer d'en fait d'éradiquer après le chat domestique, hein, le but il est vraiment pas là, c'est vraiment d'étudier la problématique du chat errant, du chat domestique par rapport aux populations de micro-mammifères. Ensuite, bah, comme nous, hein, comme on pose en forêt de Senonches, bah, il est très bien possible pour n'importe quelle personne d'aller poser des gîtes dans son jardin, dans ses haies, pour essayer d'avoir du muscardin, d'avoir du lairot en hibernation chez eux. Ça, c'est très fort possible. Et il suffit en fait d'aller sur internet, de regarder des dimensions de nichoirs qui sont données gratuitement. Et puis après, bah, si c'est des âmes bricoleurs, et ben ils peuvent très bien réaliser leur nichoir et aller le poser et puis le relever durant l'hiver pour voir s'il est occupé. Et puis je rappelle du coup, bah si vous avez la présence de micro-mammifères chez vous, vous pouvez piéger, mais le but il serait pas forcément de faire du piège létal, donc du piège avec mortalité, mais plutôt du piège non létal, et puis essayer de relâcher les individus dehors là où ils sont moins néfastes pour vous.
Très bien, bah merci beaucoup pour tous ces conseils. Cédric, on vous retrouvera, je l'espère, très prochainement dans un nouveau numéro de Touche et Terre. Merci.
Mais oui, il n'y a pas de problème. Merci.